Code Radio.
Marx says, when the general intellect starts to be concatenated inside the machine, at that point the potency, I don't like to use this word, the productive power of the machine starts to intensify. They call it productivity. Productivity is production in time. If now you produce one object every hour, and tomorrow you produce three objects every hour, that means that your productivity has increased, but something has happened in between. Or maybe you have become more nervous and take amphetamine, but you cannot explain history with amphetamine sometimes. Yes. Or you think that something has changed in the organization of the process of production. I mean, the machine. The brain has produced a machine that makes possible an increased productivity of the brain. And the brain is, and so on and so on. So Marx says at a certain point, you know what? That means that work, necessary work, the work that is necessary for the reproduction of our life, necessary work is starting to decrease and decrease and decrease up to a point, he says, up to the point of becoming a derisory quantity. A derisory, a very minimal quantity of work will be able to produce the entire of society. Stop Marx, enters Larry Page. Larry Page has not so much to do, I don't even know if he knows the fragment of machines, probably not, probably yes. But he is the CEO of Google, as you know. So he is a person that we should listen with some attention. And in an interview published by the web magazine Computer World in October 2014, Larry Page said some words that for me are quite important. He says, I see that the governments of the world speak daily of employment, unemployment, full employment, and it seems that full employment is the goal of all the governments of the world. But it's impossible, you know. And also, I think that it's crazy the idea that people can go on working 8 hours per day. Because you know what? If Google translates the knowledge about artificial intelligence into machines, what we can do tomorrow morning, that means that 50% of the existing jobs disappear overnight. Well, this is the talk that you can find now in every book or magazine that tries to put in connection robot production, artificial intelligence, automation, and jobs. So, what happens that the unemployment is growing. Precariousness becomes normal because capitalists do not need any more work. So if you want to work, you work at my conditions. And my conditions is low salary. You work whenever I want, Sunday and Saturday. And if I want, I fire you tomorrow. Why? Because they don't need our work. Because, as Marx said long time ago, the machine, the intelligent machine, is able to replace your work. Does that mean that you are useless? Not at all, because I am not a worker. I am a human being. So the point is that we are more and more useless. And that should be good, because that is the long expected end of the necessity of work. The problem is that capitalism is based on human labor, and profit can reap only if capitalism is taking hours and hours of your work, and also the entire ideological and economic machine is based on the fact that the majority of people, not all, because someone has to be marginalized in order to blackmail those who work, the majority of people have to work 8, 9, 10, 11, 12 hours per day. So, you see, the possibility is there, but the form, the tangle, the capitalist organization of labor is making impossible the full deployment of an existing possibility. Not only an existing possibility, but a sort of urgency. Everybody knows that the real fear, the real danger of our time is that robots are taking our job. Oh my God. And so we go to vote for Donald Trump, because Donald Trump is promising that you will not die, my dear. Mexicans will die. So Ford wants to go to Mexico and hire 1,200 workers. No, no, no. I want this factory in the United States of America. And Ford says, yes, but I will hire 700, not 2,200. But this is a victory for Trump. You see the absurdity of the rationale that the tangle is producing? Maybe someone says, no, but the real problem now is war, or the real problem now is depression, or the real problem is suicide. It's true, but you know what? You will not solve the problem of war. You will not solve the problem of depression and of suicide, because the real point, the core of the problems is that we don't need to work anymore. So, my...
Voilà.
Un homme habité, apparemment.
Absolument, il est fantastique. Je vais vous publier, on vous publiera sur la page Facebook de Argot Radio le streaming en live, enfin la vidéo de cette conférence pour que vous puissiez voir. Alors c'est très complexe, il y a tout un groupement d'idées où il définit la forme et le contenu de nos vies en disant que la forme, enfin de nos sociétés, en disant que la forme c'était le capitalisme et que le contenu c'était notre connaissance. Il y a toute une série d'explications où il part dans des références innombrables à Marx et à... Voilà, c'est...
Mais en gros, moi, ce que j'ai un peu retenu de son intervention, c'est l'idée qu'il y a une pensée à court terme qui est présente sur toute la planète, et que l'idée, par exemple, que dans la plupart des pays, on créerait un espèce de ministère du futur, vu que le futur est en train de nous arriver en pleine gueule et très rapidement, c'est juste... Je pense qu'il remet en valeur l'idée simplement de penser.
Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans une autre partie de son discours, il dénonce la gauche. Il dit que les gens de la gauche et des unions, des syndicats, continuent une genre d'idée que le travail est à sauvegarder quoi qu'il arrive, qu'il faut se battre pour notre droit de travailler. Et en fait, il dit c'est ça qui sclérose complètement la société et qui fait que la société capitaliste, ben, même si ils sont très bien pensants ces gens-là, ils pensent pas très loin. Enfin, voilà, c'est assez c'est très complexe ce dont il parle, c'est-à-dire que quand il parle de entanglement, interconnexion et tout ça, il a développé cette idée-là un quart d'heure avant. Chaque idée, enfin là c'est juste un extrait qui essaie de montrer l'entièreté de la chose. Mais ce monsieur, il n'est pas complètement perdu non plus. Il a une petite suggestion pour nous.
So, my suggestion is be prepared to a long time of war, depression and trauma, but be prepared to get up tomorrow morning and fight. Being prepared to a long age of darkness does not mean that we stop being available to a sudden light tomorrow morning. That is a political suggestion that we have to maintain in our life and in our communication. Realistic understanding of things and permanent refusal of depression. Some stupid guys think that if you are despaired, you have to be depressed. Not at all. I'm not depressed, believe me. And I am totally despaired. But the two conditions are happen on very different levels. Despair is something that happens in the sphere of your thought. Depression is happening in your body. So you have to keep the autonomy of your body, of the collective body, from the despaired understanding that there is no way out. There is no way out, who cares? But at the same time, you have to be able to maintain your flexibility, your energetic flexibility, and to look at things in a despaired way. But also your despaired brain has to think about an important fact that we are talking about now. And when we talk about now, we are talking about the effects that the present reality is producing tomorrow and in the next years. So in a sense, our analytical brain has to understand that if Trump wins, we should not expect that he changes his mind the day after. And actually, he's not changing his mind, as you can see in the last days. The point is keep your energy for the moment when that possibility will be disentangled. And remember, that day, maybe tomorrow, you have to be ready every day while knowing that it's very difficult. It's quite improbable. It's almost inconceivable. But the inconceivable is our job. We are here to make visible the inconceivable. So.
Donc c'était un extrait de Franco Bifo Berardi qui nous donnait justement donc des suggestions par rapport à toutes ces idées qu'il a développées avant, et notamment celle de regarder les choses avec désespoir, mais un désespoir qui veut non pessimiste, qui veut quelque chose comme plutôt optimiste. Et donc, du coup, Lynn, tu vas nous en parler un peu plus.
Bah, en fait, il fait la comparaison des deux en disant que le désespoir, qu'il est complètement désespéré, mais qu'il n'est pas du tout déprimé. C'est-à-dire qu'il dit que la dépression, c'est quelque chose du corps, alors que le désespoir, c'est quelque chose du cerveau. Et en français, en plus, dans désespoir, il y a le mot espoir, donc c'est quelque chose qui résonne. Ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il faut qu'on se prépare à vivre une période de trauma, une période sombre, une période horrible, mais qu'on soit prêt. Le jour où il faut partir se battre, on sera prêt. Tous les matins, on se réveille prêt à se réveiller et à faire des choses.
C'est... C'est-à-dire il regarde le futur un peu avec... enfin, il a pas peur de regarder les choses en face et de se confronter.
Absolument. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va amener la, enfin surtout lors de ce genre de conférence, c'est que le sujet, c'est la société en fait. Le sujet, c'est des exercices d'expression de société, et d'avoir un discours comme ça dans un pays comme la Grèce, c'est passionnant. C'est-à-dire que on est dans un pays où on est partagé entre l'idée de désespoir total parce que le taux de chômage est à 30% comparé aux 7% belges. C'est clairement la crise depuis les années depuis 2008 et même un peu bien avant. Et il y a plein de notions dans d'autres discussions. Il y a eu la notion que la Grèce, c'est le symbole du nouveau colonialisme par rapport à l'Union européenne, et pareil, c'est un truc très complexe, quoi, mais c'est dans une autre discussion, ils ont développé cette idée-là que c'était une invasion sans prendre en compte la culture et l'héritage. Et l'héritage grec. Et une des choses intéressantes qui ont été dites, c'est qu'avant, la Grèce était le berceau de la démocratie. Maintenant, c'est le jardin, quoi. C'est l'arrière-cour abandonné et complètement bafoué.
C'est ce qu'ils essayent de faire, du coup, dans la documentaire d'introduction, en introduisant cette question de la politique. C'est peut-être redonner aussi à la Grèce cette place qu'elle a pu avoir et ce berceau de la politique.
Absolument. C'est-à-dire que la salle dans laquelle ont lieu ces conférences, elle est trop drôle. Il y a des genres de poufs carrés, mais en fait, dessus, il y a peint des genres de marches, comme si c'était le Parlement ou les cercles de discussion pendant les démocraties antiques, quoi. C'est assez marrant. Donc tout ça, c'est, comme il dit, c'est un exercice de liberté, un exercice d'expression, de compréhension du monde et de l'ordre nouveau.
Mais je crois qu'il a aussi des solutions à tous ces problèmes, et tu vas nous faire écouter un des extraits que tu as pu recueillir de cette conférence.
Tout à fait. Donc ça, c'est le dernier extrait où il nous dit, vous allez voir, c'est très drôle.
We need to identify the social space of our action. This space, in my opinion, is called Global Silicon Valley. Many people, honorable people like Eugeni Morozov, that I like very much and I'm a great fan of, Morozov tends to think that the Silicon Valley is bad. The Silicon Valley is the place where corporations are exploiting labor and are creating tools for controlling us through. It's true, but the Silicon Valley is not only a place of production, it's also a place of conflict. And you remember Lenin, you remember the Maoists in the 70s. What did they do? Lenin went to speak with the workers of Putilov, not with 100 million Russian farmers. And the Italian autonomists in the 70s were going to Fiat Mirafiori, a small place, a big factory, where 100,000 workers were together, a place where you know that the most important energy of society is concentrated, and where you know that the most rich possibilities are concentrated. Go there. But where is it? Where is the Silicon Valley? The Silicon Valley is here. The Silicon Valley is us. The global Silicon Valley is wherever an artist meets an engineer. This is the starting point of a possible neuroplasticity, of a good neuroplasticity for the future. The connection of the poet with the engineer, the reactivation of the poetical energy of the engineer. This is the only way out, believe me or not. Bye bye.
Alors, donc voilà, ça c'était la conclusion de Franco Bifo Berardi dans son discours de The Society for the End of Necropolitics, the Destruction of Europe, à la Documenta 2014. Donc c'est un discours qui date du 27. Voilà.
Et du coup, la question principale qui pose dans cette conclusion, c'est où est la Silicon Valley d'aujourd'hui? Et quand il dit la Silicon Valley, c'est en fait la solution qui pourrait...
En fait, quand il parle de Silicon Valley, il veut dire en ça un lieu qui regroupe des énergies de création. C'est-à-dire un lieu où... c'est critiqué parce que... la surveillance et tout le toutim, il en parle aussi. Il dit bon, pas la Silicon Valley en tant que mégalopole capitaliste, mais en tant que lieu de création et lieu où les idées, les énergies vont émerger. Et donc.
Et en même temps, là où il pose la question de où est la Silicon Valley, il y répond, il dit en fait c'est nous, c'est vous.
Absolument, c'est magnifique. Il dit c'est n'importe où un ingénieur rencontre un artiste, où il va y avoir une rencontre des cultures, une rencontre des milieux pour créer
C'est là où les nouvelles formes de plastique et artistique vont pouvoir émerger, c'est ce qu'il
Exactement.
Dit en gros, c'est ça.
Absolument, et là moi je remets ça en parallèle par rapport à ce qu'on fait ici, tu vois, par rapport à l'air qui est, enfin moi je trouve qui est en train de devenir vraiment ce centre, et là le séminaire on est la preuve vivante, c'est un centre de rencontre, de création,
de concentration d'énergie, concentration. Là justement on est en plein dedans, je pense,
en plein dedans, même si on reste dans le milieu artistique et pas
oui, mais après ça reste quand même ouvert à, il y a pas forcément d'ingénieurs qui viennent là pendant le séminaire, mais on aurait pu penser à des projets où des ingénieurs auraient pu venir et ce serait associé avec des artistes ou des élèves qui ont une pratique artistique, et justement ça aurait pu faire émerger cette nouvelle forme ces nouvelles formes plastiques et artistiques dont Franco Bifo Berardi nous a parlé donc dans son
discours. Ouais, donc franchement c'est absolument intéressant, enfin à mettre en parallèle avec plein de choses, donc je vous recommande fortement d'aller voir les vidéos de ces discours à la Documenta. On va les poster avec la page Facebook d'Arcot Radio, comme ça vous pouvez avoir accès à toutes les sources qu'on mentionne. Un autre projet de la Documenta que je vais mentionner en deux minutes, c'est le Parthénon des livres. C'est un projet qui va avoir lieu c'est un projet qui veut recréer un Parthénon en livres à Kassel pour en fait commémorer un autodafé fait par les nazis sur la place publique de Kassel en 1944. Et donc, ils font un appel à donation de livres pour faire partie de ce Parthénon. Donc je vous encourage tous à contacter la Documenta et à voir où vous pouvez... envoyez vos livres. Je vais vous donner l'adresse email tout de suite. C'est books@documenta.de. Voilà, donc vous les contactez, vous leur envoyez tous les livres que vous voulez pour faire partie de cet énorme projet collaboratif à Kassel dans la deuxième partie de la Documenta. Voilà.
Alors, du coup, un peu de musique.
Absolument.
Un petit morceau de musique avant d'avoir une conversation. Conversation avec une dame qui est crieuse. Elle s'appelle Itzar Okaritz et c'est dans très bientôt, juste après, j'en parlais tout à l'heure, sonnera le grand ancien et le morceau Rocket Number 9.
Rocket number 9 took off for the planet, to the planet Venus. Zoom, 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 zoom. Up in the air, up, zoom, up, zoom, up in the air. Rocket number 9 took off for the planet, to the planet Venus. Rocket number 9 took off for the planet, to the planet Venus. Rocket number 9 took off for the planet. Yeah, up, zoom, up, zoom.
Thank you.